Journal du docteur Seward, 5 octobre. Nous nous sommes tous levés de bonne heure après un repos qui nous fut bienfaisant. Nous nous sommes retrouvés au déjeuner avec plus de gaieté que nul d'entre nous n'aurait cru possible d'en éprouver encore. La nature humaine a d'extraordinaires facultés de rebondissement. Supprimer l'obstacle, quel qu'il soit, et de quelque manière que ce soit, même par la mort, et nous voulons retrouver nos premières raisons d'espérer et de nous réjouir. Plus d'une fois, tandis que nous étions assis autour de la table, j'ouvris de grands yeux en me demandant si les événements des jours précédents n'avaient pas été un rêve. Il me fallait revoir la tache rouge sur le front de Mrs. Harker pour me ramener à la réalité. Même à présent que je pèse sérieusement la question, il m'est presque impossible d'admettre que la cause de tous nos troubles continue d'exister. Même Mrs. Harker, pendant de longs moments, semble perdre de vue son souci. Elle ne repense à sa terrible balafre que de temps en temps lorsque quelque incident la lui remet en mémoire. Nous devons, dans une demi-heure, nous réunir dans mon bureau et arrêter notre plan d'action. J'y vois seulement une difficulté immédiate qui m'est révélée par l'instinct plutôt que par la raison. Je redoute qu'une cause mystérieuse ne lie la langue de la pauvre Mrs. Harker. Je sais qu'elle tire des conclusions à part soi, et d'après tout ce qui s'est passé, je devine combien elles peuvent être lumineuses et exactes, mais elle ne veut pas ou bien elle ne peut pas les formuler. Je m'en suis ouvert à Van Helsing, et nous devons en parler ensemble quand nous serons seuls. J'imagine que quelque chose du poison horrible qui s'est installé dans ses veines commence à la travailler. Le comte avait son intention lorsqu'il lui donna ce que Van Helsing appelle le baptême du sang de vampire. Eh bien, il peut exister un poison qui se distille à partir de choses excellentes. En un âge où l'existence des ptomaïnes est un mystère, comment pourrions-nous nous étonner de quoi que ce soit? Mais je sais une chose, si mon instinct ne me trompe pas en ce qui concerne les silences de la pauvre Mrs. Harker, notre tâche, je le répète, nous réserve une terrible difficulté, un danger inconnu. Le même pouvoir qui la contraint au silence peut aussi la contraindre à parler. Je n'ose penser plus avant, car ce serait dégrader une noble femme dans mes pensées. Voici Van Helsing qui vient dans mon bureau avant les autres. Je vais essayer d'aborder ce sujet. Plus tard. À l'arrivée du professeur, nous avons commenté la situation. Je me rendais compte qu'il avait en tête une chose dont il souhaitait me parler, mais qu'il hésitait à le faire. Après avoir quelque peu battu les buissons, il dit brusquement « « Mon cher John, voici de quoi nous devons nous entretenir en tête-à-tête, au moins pour commencer. Nous mettrons ensuite les autres dans notre confidence. » Il s'arrêta. J'attendis. Il reprit. « Madame Mina, notre pauvre chère Madame Mina, n'est plus la même. Un frisson me parcourut à trouver une telle confirmation à mes pires terreurs. » Il poursuivit. La triste expérience de Miss Lucy nous avertit de ne pas, cette fois, laisser les choses aller trop loin. En réalité, notre tâche est à présent plus ardue que jamais, et ce nouveau souci donne, à chaque heure, une importance cruciale. Je vois les caractéristiques du vampire apparaître sur son visage. C'est encore très peu de choses, mais visible cependant si nos yeux consentent à constater sans idée préconçue. Ses dents sont plus aiguës, mais son regard, par moments, est plus dur. Et ce n'est pas tout. Elle est trop souvent silencieuse. Il en était de même chez Miss Lucy. Elle se taisait, même alors qu'elle écrivait ce qu'elle voulait qui fût connu ensuite. Ce que je crains actuellement, c'est ceci. Si elle peut, en état d'hypnose, nous révéler ce que le comte voit et entend, il est tout aussi vrai que celui qui l'a hypnotisé le premier, qui a bu de son sang et lui a fait boire du sien, pourrait, s'il le voulait, la contraindre à lui révéler ce qu'elle sait. J'acquiesçai. Il poursuivit. Par conséquent, pour prévenir ce danger, nous devons la tenir dans l'ignorance de nos intentions, afin qu'elle ne puisse dire ce qu'elle ne saura pas. C'est une pénible obligation, si pénible que le cœur me manque à y penser. Lorsque nous allons nous retrouver ensemble, je dois lui dire que, pour une raison que nous ne pouvons lui découvrir, elle ne peut assister à notre réunion, mais qu'elle reste simplement sous notre protection. » Il essuya son front inondé de sueur à la pensée de la souffrance qu'il allait infliger à cette pauvre âme déjà si torturée. Je savais qu'il trouverait une sorte de réconfort à apprendre que j'en étais arrivé, de mon côté, à une conclusion identique, et qu'en tout cas je l'arracherais ainsi à la peine du doute. Je le lui dis, et le résultat fut ce que j'avais espéré. L'heure approche de notre réunion générale. Van Helsing est sorti pour préparer l'assemblée et son pénible préambule. En réalité, je pense que son intention était de trouver un moment pour prier, en silence. Plus tard. Dès le début de la réunion, Van Helsing et moi-même avons été grandement soulagés. Mrs. Harker nous faisait dire par son mari qu'elle ne se joindrait pas à nous à ce moment-là, estimant préférable que nous discutions nos projets sans que sa présence pût nous embarrasser. Le professeur et moi, nous avons échangé un rapide regard, comme délivrés d'un souci. Je pensais, quant à moi, que si Mrs. Harker avait elle-même mesuré le danger, une grande souffrance, en même temps qu'un grand péril, était écartée tout d'un coup. Dans ces conditions, nous fûmes d'accord par une question et une réponse que nos doigts échangèrent et un doigt sur les lèvres de faire le silence à propos de nos inquiétudes, jusqu'à ce que nous fussions de nouveau seuls pour en parler. Nous nous mîmes donc aussitôt à étudier notre plan de campagne. Le docteur Van Helsing résuma sommairement les faits. La tsarine Catherine a quitté la Tamise hier matin. À une vitesse maximum, il lui faudra 3 semaines au moins pour atteindre Varna. Par terre, nous pouvons y être en 3 jours. Maintenant, si nous accordons au navire un bénéfice de 3 jours, grâce aux conditions atmosphériques que le comte peut procurer, nous le savons, si nous évaluons à 1 jour et 1 nuit entière le retard qui peut nous arriver, il nous reste une marge de près de 2 semaines. C'est pourquoi, afin de nous assurer une complète sécurité, il nous faut partir d'ici au plus tard le 17. Nous serons de la sorte à Varna au moins 1 jour avant l'arrivée du bateau et en état de faire tous les préparatifs nécessaires. Bien entendu, nous serons tous armés, armés contre tout mal, spirituel ou matériel. Ici, Quincy Morris intervint. Je crois comprendre que le loup vient d'une région où il y a des loups et il peut y arriver avant nous. Je suppose que nous ajouterons des Winchester à notre armement. J'ai une sorte de foi en la vertu d'une Winchester quand il y a aux environs des ennuis de ce genre. Vous vous rappelez, Hart, quand nous avions toute cette bande à nos trousses à Tobolsk, que n'aurions-nous pas donné l'un et l'autre pour avoir chacun un fusil à répétition ?
Parfait, dit Van Helsing. Il y aura des Winchester. Quincy a une tête qui est toujours à la hauteur, surtout quand il s'agit de chasse, quoique ma métaphore soit plus une honte pour la science que les loups ne sont un danger pour l'homme. Au surplus, nous n'avons rien à faire ici, et comme je pense qu'aucun de nous ne connaît Varna, pourquoi ne pas y arriver plus tôt ? Le temps nous semblerait ici aussi long qu'il nous paraîtra là-bas. Cette soirée et la matinée de demain doivent suffire pour nos préparatifs. Donc, si tout va bien, nous pourrons partir tous les quatre, immédiatement. « Tous les quatre ?» répéta Harker d'un ton interrogateur, en nous regardant l'un après l'autre. « Certes, » répondit vivement le professeur. « Vous devez rester pour prendre soin de votre si douce jeune femme. » Harker demeura un instant silencieux, avant de reprendre d'une voix creuse. « Nous parlerons de cela dans la matinée. Je voudrais consulter Mina. » Il me semblait que le moment était venu pour Van Helsing de prier Harker de ne pas révéler nos plans à sa femme. Mais il n'en fit rien. Je lui lançai un regard significatif et je toussai. Pour toute réponse, il posa son doigt sur ses lèvres et s'en fut. Journal de Jonathan Harker, 5 octobre, après-midi. Pendant quelque temps après notre réunion de ce matin, je restais l'esprit vide. Ces nouveaux développements me laissent dans un état de stupeur où nulle pensée active ne saurait trouver place. La décision de Mina de rester à l'écart de nos délibérations me donne à réfléchir. Et comme je n'ai pu en discuter avec elle, j'en suis réduit à des suppositions. Me voici aussi éloigné que jamais de toute solution. La façon dont les autres ont pris la chose me déroute également. Quand nous avons agité le sujet pour la dernière fois, il était entendu que rien entre nous ne resterait caché. Mina dort, à présent, aussi calme, aussi paisible qu'un petit enfant. Ses lèvres sont arquées. Son visage rayonne de bonheur. Grâce à Dieu, il existe encore de tels moments pour elle. Plus tard. Que tout cela est étrange.
J'étais assis, veillant sur l'heureux sommeil de Mina, et aussi près que possible d'être heureux moi-même. Le soir s'avançait, la terre se couvrait d'ombre à mesure que le soleil déclinait, le silence dans la chambre me semblait de plus en plus profond. Mina ouvrit brusquement les yeux, et me regardant avec tendresse me dit « Jonathan, je voudrais que vous me promettiez quelque chose sur votre honneur, une promesse que vous me ferez à moi, mais qui sera consacrée par le sentiment que Dieu l'entend. Une promesse que rien ne devra rompre, pas même si je tombe à genoux et vous implore avec des larmes amères. Vite, il faut me la faire à l'instant. » « Mina, lui répondis-je, je ne puis vous faire sur le champ une promesse de ce genre. Je n'ai peut-être pas le droit de la faire. » « Mais mon chéri, dit-elle avec une telle intensité d'âme que ses yeux furent comme des étoiles, c'est moi qui le souhaite, et non point pour moi-même. Demandez au docteur Van Helsing si je n'ai pas raison. S'il n'en convient pas, vous ferez à votre guise. Et de plus, si vous êtes tous d'accord, plus tard je vous rendrai votre parole. Je promets, dis-je, et pour un moment elle parut parfaitement heureuse. Quoique, pour moi, la balafre rouge sur son front rendit tout bonheur impossible, elle dit « Promettez-moi de ne rien me révéler de vos plans concernant la campagne contre le comte. Ni un mot, ni une allusion, ni un sous-entendu, rien, aussi longtemps que ceci sera sur moi. » Et elle me désigna solennellement la balafre. Je compris la gravité de ses paroles, et je répétai tout aussi solennellement « Je vous le promets. » Et en prononçant ces mots, je sentis que depuis cette seconde, une porte s'était refermée entre nous. Même jour, minuit. Mina a été vive et gaie tout l'après-midi, si bien que nous tous en avons repris courage, comme gagnés par sa bonne humeur. Moi-même, il m'a semblé que la chape d'horreur qui pèse sur nous s'allégeait quelque peu. Nous nous sommes retirés de bonne heure. Mina dort à présent. Comme un petit enfant. Comment ne pas s'étonner qu'au milieu de sa terrible angoisse, elle ait conservé sa faculté de sommeil. Dieu en soit loué, car à ce moment du moins, elle peut oublier son souci. Peut-être son exemple m'atteindra-t-il comme sa gaieté cet après-midi. Ah, une nuit de sommeil, sans rêve. 6 octobre, au matin. Autre surprise, Mina m'a réveillé tôt, à la même heure environ qu'hier, en me demandant d'aller chercher le docteur Van Helsing. Je pensais qu'il s'agissait d'hypnose, et sans l'interroger, je me rendis chez le professeur. Il s'attendait évidemment à une visite, car je l'ai trouvé tout habillé dans sa chambre. Sa porte était entr'ouverte, et il avait pu entendre s'ouvrir la nôtre. Il vint aussitôt, et en entrant, il demanda à Mina si les autres pouvaient nous rejoindre. « Non, » fit-elle très simplement. « Ce ne sera pas nécessaire. Vous pourrez leur faire le message. Je dois vous accompagner dans votre voyage. » Comme moi, il sursauta, puis demanda après un silence, « Mais pour quelle raison ?»« Il faut que vous m'emmeniez. Je serai plus en sécurité avec vous, et vous également. » »« Mais pourquoi, chère Madame Mina ? Le soin de votre sécurité, vous le savez, est notre premier devoir. Nous affrontons un danger auquel vous êtes plus exposé qu'aucun d'entre nous à la suite de circonstances, de choses qui se sont passées. » Il s'interrompit, embarrassé. En répondant, elle désigna son front du doigt. « Je sais, et c'est pour cela que je dois partir. Je puis vous le dire à présent que le soleil se lève. Plus tard, je ne pourrai peut-être plus. » Je sais que lorsque le comte me réclame, je dois obéir. Je sais que, s'il m'ordonne de venir secrètement, je le rejoindrai par artifice, par tout expédient capable de donner le change, même à Jonathan. Elle tourna vers moi un regard de détresse. Je ne pus que saisir sa main, incapable de parler, trop émue pour avoir même la détente des larmes. Elle poursuivit. Vous les hommes, vous êtes braves et forts. Vous êtes forts d'être ensemble, car vous pouvez défier ce qui risquerait de briser l'humaine résistance d'un gardien unique. De plus, je pourrai vous servir, car en m'hypnotisant, vous pourrez apprendre de moi ce que moi-même j'ignore. » Le docteur Van Helsing dit gravement, « Madame Mina, vous êtes, comme toujours, la sagesse même. Oui,
Vous nous accompagnerez et nous accomplirons cette œuvre ensemble. » Après qu'il eut parlé, Mina garda un silence si prolongé que je la regardai. Elle était tombée sur ses coussins, endormie. Elle ne se réveilla même pas lorsque je levai les stores et laissai le soleil inonder la chambre. Van Helsing me fit signe de le suivre en silence. Nous rentrâmes chez lui, où bientôt Lord Godalming, le docteur Seward et Mr. Morris nous eurent rejoints. Il leur rapporta les paroles de Mina et poursuivit. « Nous partirons aujourd'hui même pour Varna. Nous avons à présent à tenir compte d'un élément de plus, Madame Mina. Ah, quelle âme sincère! Ce fut une agonie pour elle de nous en avoir dit si long, mais elle a raison, et nous avons été avertis à temps. Nous n'avons pas une chance à perdre, et à Varna, nous devons être prêts à agir dès l'arrivée du bateau. » « Que devrons-nous faire exactement ?» demanda brièvement Mr. Morris. Le professeur, après un moment, répondit « Pour commencer, monter à bord, puis dès que nous aurons identifié la caisse, y poser un rameau de rosier sauvage et le fixer, car tant qu'il y sera, nul ne peut en sortir. C'est du moins ce que disent les superstitions. Et il nous faut tout d'abord nous fier aux superstitions. Elles constituent les croyances primitives de l'homme et elles plongent encore leurs racines dans les croyances. Ensuite, dès que viendra l'occasion que nous cherchons, quand personne ne sera là pour nous voir, nous ouvrirons le coffre et... « Et tout ira bien. »« Je n'attendrai aucune occasion, » dit Morris. « Dès que je verrai la caisse, je l'ouvrirai et je détruirai le monstre. Y eût-il 1000 hommes à me regarder, et dussé-je être effacé des humains à la seconde suivante ?» Un réflexe me fit lui saisir la main. Elle était aussi rigide qu'un morceau d'acier. Je crois, j'espère, qu'il comprit mon regard. « Brave garçon !» s'écria le docteur Van Helsing. « Brave garçon !» Quincy est 100% un homme. Dieu l'en bénisse. Mon enfant, croyez-moi, aucun de nous ne traînera à la besogne et ne restera court pour avoir tremblé. J'indique simplement ce que nous pouvons, ce que nous devons faire. Mais à la vérité, comment savoir ce que nous ferons? Il peut arriver tant de choses. Leur détour, leur résultat peut être si différent qu'il est impossible de rien dire avant l'événement. En tout cas, nous serons tous armés. Et quand le moment décisif sera là, notre effort ne faiblira pas. À présent, mettons nos affaires en ordre. Réglons tout ce qui concerne ceux qui nous sont chers et qui dépendent de nous, car aucun de nous ne peut deviner quel dénouement nous attend, ni quand ou comment il surviendra. Pour ce qui est de moi, mes dispositions sont prises, et je n'ai rien d'autre à faire que d'organiser le voyage. Je vais prendre les billets et tout ce qu'il est nécessaire pour le départ. Il n'y avait rien à ajouter et nous nous séparâmes. Je vais maintenant régler mes affaires terrestres et me préparer à tout ce qui peut arriver.
Plus tard. C'est fait. Mon testament est prêt et tout le reste également. Si Mina me survit, elle est ma seule héritière. S'il en est autrement, ceux qui ont été si bons pour nous auront ce que je laisserai. Le crépuscule approche. L'agitation de Mina attire mon attention. Il se passe, j'en suis sûr, quelque chose dans son esprit, au moment exact où le soleil disparaît. Ces moments sont une épreuve pour chacun de nous, car chaque lever, chaque coucher du soleil ouvre un nouveau danger, une nouvelle souffrance qui, Dieu le veuille, peut pourtant servir à un heureux dénouement. Je note toutes ces choses dans mon journal, puisque ma chérie n'en peut rien savoir à présent. Si un jour vient où elle pourra les connaître, elles sont prêtes. Elle m'appelle.